Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de Fée, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de Sequoia 88.3 en compagnie de Nicolas,
Johnny
et Farouko.
Et cette semaine, on a plusieurs choses au programme. Évidemment, tout d'abord, des nouvelles locales. On revient sur une manifestation du Frappru qui a eu lieu le 24 février. Aussi sur l'École Bleue qui rajoute une couche sur la question de des ordures.
Continue l'offensive.
On a aussi plusieurs nouvelles pan-canadiennes, disons.
On va parler d'un incident raciste qui a été survenu dans une petite ville de Nouvelle-Écosse.
Parle aussi de l'esprit olympique à Vancouver, hein, c'est le salaire le plus bas au Canada, dans certains cas.
L'esprit du sacrifice,
oui. Et aussi, on va finir ça avec une critique d'un livre qui vient de paraître chez Lux, qui vient de ressortir des Boulamites, un classique, ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression. Donc, un texte de Victor Serge qui date, ma foi, de 1925. Mais on va voir avec nous Francis Dupuy-Déry, qui signe la Postfast, qui va nous expliquer... on va l'avoir avec nous au téléphone.
Oui, si on est chanceux.
Non, ça va bien se passer.
Ça va bien aller.
Et il va nous expliquer en quoi est-ce que c'est toujours d'actualité. Mais avant d'aller vers tout ça, on le sait, le climat socio-politique est particulièrement pourri en ce moment, quand c'est pas des animateurs de radio ou des commentateurs sportifs à télé qui font des commentaires homophobes, quand c'est pas des réactionnaires qui battent trip sur le voile, la burqa ou peu importe quoi, quand c'est pas des accommodements raisonnables, c'est Lucien Bouchard qui nous sort des...
Qui profite de la vague
et ça va pas bien, c'est pas le fun. Et on va avoir besoin de motivation dans les prochains temps. Et puis aujourd'hui, mon lecteur MP3 est resté ouvert. Puis quand je l'ai remis, c'était Kenny Arcana.
Oh!
Puis je me suis dit qu'en termes de motivation, c'était quand même pas si pire, ça. Fait qu'on dédie la première chanson de cette édition de Voix de Fée à tout le monde qui va être obligé de se battre contre les hausses de tarifs, les hausses de frais de scolarité, la privatisation et toutes les autres cochonneries qui nous tombent sur la tête en raison peur de la liberté sur les ondes de Voix de Fée.
C'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile. Où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Où ça a pris la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. De sagesse, ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect, mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun a la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimerait nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche. Carcère, créature d'argile corrompue pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades,
ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain.
Ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés. Et ils ont baissé les bras, se sont sautés les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Où ton cœur te porte et la vie te donnera raison. Le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas. Dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie dépend de ton regard. Camarade, évite-toi, le temps voudrait te corrompre. Car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux. Parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toute seule établie. Va où ton cœur te porte, camarade.
Bonsoir, c'est le capitaine Gingras de la Patrouille 86. C'est que j'aimerais ça que vous nous prépariez deux cafés.
Ok, c'est deux grains?
Ouais, deux grains.
Ok, un est un sucre, l'autre c'est un sucre. Ok, oui.
Ok, merci beaucoup.
Au revoir.
Bonsoir. C'est quatre.
Vous écoutez Voix de Fée.
La Ville de Québec promet d'économiser 1 million par an en donnant la totalité de la collecte des ordures au privé.
Mais ça pourrait être bien plus.
Riez pas, ça arrive. Prenez les taxes municipales. Ils promettaient une augmentation à hauteur de l'inflation, puis sont allés nous chercher pas mal plus. Quand la Ville va avoir liquidé nos camions puis l'équipe qui a l'expertise nécessaire, le privé va soumissionner bien plus haut. Pas vrai? Puis s'ils se trompent, ils vont bien trouver 300 000 à rapailler. Un message de vos cols bleus, membres du SCFP.
Hey, les cols bleus en rajoutent une couche. Vous venez d'entendre la deuxième publicité de leur campagne d'opposition à la privatisation de la collecte des ordures ménagères. Alors, c'est une publicité qui tourne sur les ondes des radios privées de la région de Québec depuis mercredi dernier. Évidemment, il y a deux semaines, Régis Labeaume de Québec avait qualifié la première publicité des cols bleus de vicieuse. Il y avait des éditorialistes qui s'étaient élevés contre. On verra bien ce qu'il va penser de cette seconde publicité-là.
Alors, je serais déçu de moins de réactions. Vraiment.
Mais il faut savoir que ça se double aussi de la distribution d'un pamphlet intitulé « La collecte des ordures ménagères, c'est écrit dans le ciel, ça va coûter plus cher », qui est distribué à 100 000 exemplaires dans la grande région de Québec, de main en main par l'École bleue, mais aussi par le service de Poste Canada à plusieurs endroits. Oh. Donc au centre-ville, on reçoit ça dans nos boîtes à mal et dans différents endroits. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent un peu plus de chiffres. On sait que c'est une campagne un tantinet populiste. Il y a des gens qui aiment pas ça. C'est sûr que c'est de l'humour et tout. Mais il y a quand même des choses derrière ça qui soutiennent cette opinion-là du syndicat des cols bleus. C'est pas juste du corporatisme pur et dur de protéger leur job, parce que de toute façon, effectivement, les permanents, ils vont garder leur job anyway. C'est parce que on s'est rendu compte au Canada que le service public, quand on le privatisait, on se mettait dans le trouble.
Ça coûte plus cher et ça baisse de qualité.
Et il y a plusieurs personnes qui s'en sont rendues compte, dont curieusement le maire de Québec, qui déclarait dans Le Soleil du 17 juin 2009 qu'il reconnaissait l'importance de maintenir la moitié du déneigement par les cols bleus pour éviter de voir le privé gonfler ses prix. Et c'est aussi reconnu par le Bureau de la concurrence, un tribunal qui est indépendant, qui, en juin 2009, a exigé de deux compagnies qu'elles cessent l'abus de position dominante qu'elles commettent conjointement dans le marché des services commerciaux de collecte des ordures du centre de l'île de Vancouver. Alors ça, c'était dans le Market Wire du 16 juin 2009. Ils ont eu des problèmes sur la côte ouest avec ça. Évidemment, c'est pas juste un problème qu'il y a sur la côte ouest, c'est un problème qu'on a aussi au Québec. En novembre 2009, en Abitibi, la MRC de la Vallée de l'Or s'est rendu compte que le plus bas soumissionnaire pour la collecte des ordures était 500 000 piastres au-dessus des coûts prévus.
Ah ben.
Et là, ils en sont venus à la conclusion qu'il était plus économique de s'équiper adéquatement, d'embaucher les gens nécessaires et d'effectuer elle-même la collecte des déchets. 5 ans auparavant, la MRC avait confié la collecte au privé.
Fait qu'il a fallu qu'ils rachètent tout un paquet de trucks.
Et évidemment, Québec, pas plus que les autres villes, est à l'abri de ce type de problème-là.
Ben oui, jamais il n'y arrivera de corruption ici. Jamais.
Non. Peut-être qu'il n'y aura pas de corruption dans le sens de graisser la patte à des élus, mais ouais. Par contre, il y a déjà eu des cartels qui ont été démantelés dans le passé. Il y en a eu dans le béton puis dans la neige. Il y a aussi eu un cas tout à fait récent de deux compagnies privées qui se sont entendues pour fixer les prix dans un appel d'offres pour remplacer 16 000 feux de circulation.
Oui.
Et là, il y a eu une condamnation là-dedans. Puis tout le monde en entend parler. Puis en fait, c'est curieux que ça arrive maintenant parce que avec les dernières élections municipales et les problèmes dans la grande région montréalaise, il y a maintenant 80% de la population qui pense qu'il faut qu'il y ait une enquête publique sur cette question-là, sur la question de la collusion dans les services offerts par le privé. Et d'ailleurs, si on regarde le scandale des compteurs d'eau à Montréal, qui est le scandale le plus récent, le plus grossier là-dessus, dans la presse, le chroniqueur Yves Boisvert écrivait qu'il est intéressant de noter que le vérificateur recommande à la ville de faire une évaluation interne des travaux avant de les donner au privé. Ce qu'on peut se demander, c'est un coup que la ville de Québec va avoir perdu toute son expertise. Qu'est-ce qu'elle va faire?
On va faire affaire avec une firme pour faire l'évaluation.
Oui, c'est ça. Et on reconnaît maintenant, du côté de la ville, que peut-être, il n'est pas certain que le service des cahiers des ordures privatisé. Richard Côté dit que peut-être que ça pourrait coûter plus cher à long terme, auquel cas la ville pourrait redonner la prestation du service à ses employés. Et au syndicat des Cols Bleus, on dit combien de temps est-ce que ça va prendre? Probablement 5 ans, comme en Abitibi. Et donc on dit aux contribuables de préparer leur chéquier, parce que, évidemment, ben, c'est monsieur et madame tout le monde qui va payer pour ça. Et contrairement à ce que pensent les populistes, monsieur et madame tout le monde inclut les locataires, parce qu'ils se font refiler les factures de taxes de leurs propriétaires.
Inclut surtout les locataires.
Et oui. Et donc, ce qu'il faut savoir pour finir, c'est qu'il y a un grief qui est en ce moment. Il y a l'arbitre Denis Provençal qui a entendu les représentations du syndicat des Cols Bleus et l'administration municipale. Il a indiqué qu'il y aurait une décision qui serait rendue le 1er avril. Donc, on attend ça avec impatience. Et pendant que le syndicat des Cols Bleus s'agite pour essayer d'alerter la population et de faire un maximum d'informations là-dessus, à la Ville de Québec, on refuse de répondre aux questions sous prétexte que c'est devant les tribunaux.
Un grand classique.
Donc, voilà pour cette chose. C'est sûr que les syndicats de Cols Bleus au Québec ont pas une super bonne presse. Donc c'est sûr que c'est pas beaucoup de gens qui voient ça comme une bataille syndicale un peu lourdaude version 1970, mais c'est quand même quelque chose qui est important. On parle malgré tout de notre argent. Puis et politiquement, c'est important aussi parce que c'est le premier groupe qui s'oppose de façon frontale à une décision de l'administration de la bombe. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Alors voilà pour ça.
Non. Ben, le premier groupe dans ce mandat-ci.
Oui, dans ce mandat-ci.
Ouais, OK, ouais.
Il y a eu l'opposition frontale pour le déneigement, là.
Ouais, puis il y a eu une tentative aussi pour le Red Bull.
Ouais. Pas la même. Ils sont fait lessiver eux autres.
Écrasés solidement.
disons que pour, en tout cas, c'est intéressant à suivre politiquement toute cette affaire-là. Et comme on l'a déjà dit dans le passé, le syndicat des Cols Bleus à Québec, c'est un syndicat qui était doux, calme et pacifique.
Pas très militant.
40 ans sans conflit, une affaire la même, là, genre 20 ans sans conflit.
Ça prenait un Labombe.
Ça prenait un registre Labombe pour faire sortir un syndicat de combat de terre. C'est quand même surprenant, parce que là, on parle d'une grosse campagne publicitaire, une grosse distribution de tracts, aller vers le public. Pas des tactiques syndicales auxquelles on nous a beaucoup habitués à la Ville de Québec.
Oui, c'est loin du lobbyisme classique.
Oui. Et disons-le, ça fait pas de tort. Donc voilà bien, pour ouais. ça. Sinon, dans un autre dossier, si vous ne faites que lire les journaux, les quotidiens, vous ne savez pas qu'hier, il y a eu une manifestation, mardi le 24 février, une manifestation à Québec. 80 locataires mobilisés par le Frappru, des gens de Québec, évidemment, mais aussi de Trois-Rivières, Saguenay et Rimouski, qui manifestaient devant le bureau de Laurent Lessard, le ministre responsable du logement social dans le gouvernement provincial. Et ça, au même moment, il y avait aussi des manifestations devant les bureaux du ministre des Finances Raymond Bachand à Montréal, à peu près 200 personnes, et devant les bureaux du ministre responsable, en fait, du premier ministre à Sherbrooke, 225 personnes. Ça, c'est hot. Il y avait plus de monde à Sherbrooke qu'à Montréal pour ça. Et en fait, c'est le Frappru qui réclame le financement de 50 000 logements sociaux en 5 ans sous la forme de HLM, de coopératives d'habitation et de logements sans but lucratif. Manifeste pour ça, mais en plus, ils ont peur que, je pense que le climat actuel leur donne raison, ils ont peur que le gouvernement invoque le déficit budgétaire pour ne pas donner suite immédiatement à un engagement quand même modeste qui avait été signé par le premier ministre Charest pendant la campagne électorale de 2008, c'est-à-dire la prolongation du programme Axelogie pour 5 ans en raison d'un minimum de 3 000 nouvelles unités par année pour un total de 15 000 nouveaux logements sociaux.
Là, on vient de renouveler, mais pour un an, c'est ça?
Ben, en fait, on vient pas, là. Ça fait un bout que c'est fait. Là, la programmation 2010 est sortie.
OK. Mais c'est pour un an.
Oui, c'est dans le budget qui va être déposé dans quelques semaines.
Puis on veut 5.
Ouais, on voudrait 4 jusqu'à la fin du mandat, en fait. On veut que ce soit 5 ans. On veut qu'ils rajoutent les 4 ans qui restent. Et donc, ça, on va le savoir en mars. Mais bon, il y a des manifestations là-dessus. 500 personnes au total, finalement, qui disaient que c'est nous qui sommes dans le trou. Ça, c'est les locataires qui disaient ça. Et ce qu'on dit aussi aux frappeurs, c'est que bon, là, on manifeste pour le logement social, sauf qu'on s'entend-tu que les pauvres et la classe moyenne risquent de manger la claque assez solide dans le prochain budget, et on prépare déjà la suite, et le frappeurs s'est allié avec plusieurs autres groupes pour former la coalition opposée à la tarification et à la privatisation dans les services publics, et ils ont l'intention d'organiser la riposte. Et déjà, il y a une grande manifestation qui est prévue dans le quartier des affaires de Montréal le 1er avril. Ils vont prendre la rue Saint-Jacques. Donc, c'est sûr qu'on va en reparler à voix de fait. Oui.
Tant qu'à dire qu'on va en reparler à voix de fait, on n'a plus juste le blog maintenant.
Ah oui, c'est vrai. Hey, si vous aimez notre blog, mais que vous oubliez d'aller le voir, mais que vous êtes sur Facebook, on a maintenant une page Voix de fait sur Facebook, et vous pouvez devenir fan de Voix de fait sur Facebook. Alors, vous avez juste à chercher Voix de fait, finalement, dans Facebook
avec un X et un S.
Sinon, il y a le bon vieux blog, voix de fait avec un X, un S.blogspot.com. On est aussi sur Twitter.
Ouais, mais sur plein d'autres sur affaires. Facebook, tu fais juste le lien, puis c'est fini.
C'est super.
Tout déboule.
Tout déboule gratos avec Network Blog.
Ouais.
On s'en va en musique avec quoi?
On va continuer en musique avec un cover. Un cover des Beatles, je vous laisse deviner lequel, fait par The Easy All-Star.
So you know Easy Star? Yo, why you could just give the people them some rubber duck music?
De retour à Voix de fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit sur les ondes de CKIA 88.3.
Avez-vous deviné?
Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band.
Et voilà. Avis aux gens qui n'aiment pas les Beatles.
Je ne l'ai pas reconnu, c'est vraiment parce que j'ai entendu ça répéter 3-4 fois.
Tous les gens comme moi qui n'aiment pas les Beatles, toutes les versions reggae sont bonnes, ou presque.
Il paraît que c'est des bons musiciens, un peu des génies de la musique pop, hein?
Ouais, mais c'est pas eux, ça.
Non. Nous, on est dans nos nouvelles pancanadiennes, et il y a Jenny qui va nous parler de la côte Est.
C'est ça, c'est un incident raciste qui est survenu cette semaine en Nouvelle-Écosse. C'est deux jeunes hommes qui ont été, ben, ils ont été arrêtés, en fait. Ils ont été accusés d'incitation à la haine, de méfaits, d'avoir fait des menaces. C'est deux jeunes hommes qui ont soupçonné d'avoir érigé et enflammé une croix de 2 mètres devant la maison d'un groupe interracial et d'avoir lancé des insultes racistes et des menaces. Il y avait une corde de pendaison aussi qui était attachée à la croix.
C'est un genre de rituel comme le Coca-Cola, là.
Le Coca-Cola, carrément.
Un bon vieux redneck.
Ouais, c'est ça, deux bons rednecks. C'est ça, c'est un couple interracial, que la femme est blanche puis que l'homme est noir. Ils ont des enfants aussi, puis eux autres, ils étaient vraiment terrorisés, cette famille-là, parce qu'ils avaient peur qu'ils se demandaient les monde qui ont fait l'attaque, ils sont encore dans le coin ou pas.
Ça, c'est un endroit où est-ce qu'il y a vraiment une invasion massive de l'immigration.
Ouais, vraiment, une grosse invasion, il y a des seuls noirs dans le village.
Et voilà.
C'est fait. C'est fini, leur culture est menacée.
Ouais. Complètement.
La police a affirmé que les accusés et les victimes se connaissent, mais puis une porte-parole de la GRC qui a précisé que les renseignements qui étaient soumis par le public amenaient à l'arrestation des suspects. La femme a qualifié l'incident d'être choquant, puis elle a dit qu'elle remercie le public, puis les gens ont vraiment donné de l'appui justement au couple, puis il y a des gens qui ont donné des indices aux enquêteurs. Puis c'est à Poplar Grove, une petite collectivité située au nord-est de Windsor, fait que...
Je comprends que c'est choquant, si on vient planter une croix sur ton terrain puis on met le feu.
Oui, je dirais taquer après le poteau. Si tu veux mettre le feu, brûle.
Ouais, mais le problème, c'est que tu ne sais pas combien ils sont dehors.
Ah, yes, sir.
Enfin, bon, dans un registre un peu moins dramatique, il y a l'esprit olympique qui se manifeste à Vancouver, comme on le sait, on le voit sur les premières pages des journaux
l'olympisme,
tous les jours.
C'est le sacrifice, Phébus. L'olympisme, et c'est donné.
C'est aussi le plus bas salaire au Canada, semble-t-il. En fait, un des principaux commanditaires des Jeux olympiques de Vancouver paye le plus bas salaire du Canada, selon Jim Sinclair, le président de la Fédération du travail de Colombie-Britannique. Alors, c'est le monsieur Arsenault de la Colombie-Britannique. En effet, McDonald's, le restaurant officiel des Jeux, j'espère que les athlètes mangent pas là, parce que...
Ah, ça a l'air qu'Alexandre des pâtis, hein. Il en mange à chaque pub au moins.
Une bouchée de salade. McDonald's, le restaurant officiel des Jeux, paye ses nouveaux employés en bas du salaire minimum provincial, qui est déjà le plus bas au Canada. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Selon la centrale syndicale, la Colombie-Britannique a le plus bas salaire minimum au Canada. C'est 8$, un montant qui est gelé depuis 8 ans. Mais McDonald's utilise une nouvelle disposition du Code du travail, un salaire d'entraînement qui a été introduit par les libéraux pour payer aussi peu que 6,36$. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait débat en ce moment au Canada, parce que c'est en Côte-Est, là, mais justement à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse. On parle d'introduire aussi un sous-salaire minimum, tu sais, une espèce de... L'équivalent en France, il y avait eu des grosses révoltes sur les CPE, les contrats première embauche, les SMIC jeunes et tout. Puis là, on voudrait revenir, tu sais, c'est pas des clauses orphelins, mais c'est comme un salaire minimum orphelin. Fait que ce serait un salaire d'entraînement qui serait moins cher que le salaire minimum, finalement.
Mais si c'est... 36.
Ouais, c'est-à-dire 25% de moins cher.
Ça fait une quinzaine d'années au Québec, c'était ça.
Ouais, je sais. Alors, il y a Sinclair qui dit qu'il a parlé à plusieurs employés de McDonald's depuis quelques jours, puis ils sont pas impressionnés par la compagnie, je comprends. Le syndicaliste pense que si la compagnie est capable de trouver des millions et des millions de dollars pour commanditer les jeux, la moindre des choses, ce serait d'offrir un salaire décent. Puis là, le salaire décent, en fait, les employés méritent un salaire décent, le respect, ce serait ça l'esprit olympique d'après le syndicaliste. Quoique moi, je trouve que McDonald's est plus dans l'esprit olympique que le syndicalisme, mais ça, c'est une autre histoire, là, c'est un débat. La centrale syndicale, elle demande que McDo paye tous ses employés au moins 10$, ce qui serait le montant nécessaire à une personne seule travaillant en temps plein pour se sortir de la pauvreté à Vancouver. Ici, ce sera 12 écuques, là, je me souviens plus du montant exact, là, mais on s'entend-tu qu'entre 6 et 36$, puis 10$, il y a comme une différence là.
Énorme. Donc, mais voilà. McDo ferait encore du profit, faites-en pas.
Ah non, c'est sûr qu'il ferait du profit. C'est sûr qu'il ferait du profit. Je veux dire, mais bon, de toute façon, il y a tout un débat autour de ça. Est-ce qu'on veut que McDo paye ses employés comme du monde ou bien non, qu'il ferme? Ça, c'est une autre
les
question
deux.
Aussi.
Les deux. Paye le monde comme du monde jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin, qu'ils boivent la coupe jusqu'à la lit. C'était pour nos nouvelles nationales. On va aller en musique pour revenir avec une critique d'un livre qui vient de sortir chez Lux. Puis après ça, on va avoir une entrevue avec l'auteur de la Postfast, parce que l'auteur du livre, il est mort.
Il est mort. Maudit. Ben moi, j'ai été chercher dans les boulamites digitales de mon ordinateur. J'ai trouvé du Zebda, puis je vais vous mettre tomber la chemise.
meilleur. Des faces de stalagmites et de jolies filles. Des têtes d'acné, un homme la famille. Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs. Et tout ce que le béton a fait de meilleur. Dès qu'il voulait pas payer l'entrée 30 balles. On t'envahit la scène, on t'envahit la salle. Y'a là des bandits qui ont des têtes de cailloux. Sous compte du sentiment autant que les voyous. Attendent qu'on allume un méchant bouquin. Et que surgissent de la scène des volcans. On a tombé la chemise. Oui, moi j'ai tombé la chemise. Oui, moi j'ai tombé la chemise. Oui, moi j'ai tombé la chemise.
Bonjour, vous écoutez toujours Voix de Fée sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. C'était Zebda, tomber la chemise. Alors, on est toujours aussi d'actualité et moderne. Ceci dit, j'adore ça par ailleurs. Je suis content que tu aies trouvé ça dans les boulamites de ton ordinateur.
Les cyberboulamites.
Les cyberboulamites. Et comme on est toujours d'actualité, on va vous parler d'un livre qui a été publié pour la première fois en 1925. En fait, ça s'intitule « Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression ». Alors, en 1919... Ça, c'est il y a quelques temps déjà. Durant le siège de Petrograd, il y a Victor Serge qui s'est vu confier la garde des archives de l'Okhrana, la police secrète tsariste. Il avait pour ordre de les évacuer vers Moscou, ou, si les armées blanches sont victorieuses, les dynamiter pour que la réaction ne puisse pas s'en servir contre les révolutionnaires. Parce qu'il faut savoir que là, il y avait là-dedans, là, genre 70 ans d'archives de police secrète. Le danger écarté, entre autres grâce au fameux train blindé de Trotsky, semble-t-il, Serge a tout le loisir d'étudier en profondeur les documents et d'en tirer les des leçons utiles qui vont être exposées ensuite dans une série d'articles publiés en France dans un truc qui s'appelait le Bulletin communiste à partir de 1921. Quelques années plus tard, en 1925, l'ensemble est bonifié de deux nouveaux chapitres et édité par la Librairie du Travail dans un petit volume qui portait le titre « Les coulisses d'une sûreté générale, ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression ». Et c'est ce classique-là qui avait été réédité dans les années 70 par Maspero, le fameux éditeur d'extrême-gauche parisien, que Lux vient de ressortir des boulamites pour l'offrir à une nouvelle génération militante. Et il faut savoir que ça sort conjointement au Québec avec Lux et en France avec l'édition « La Découverte », qui est en fait l'héritier du catalogue Maspero. Et donc moi je me demandais, bon, quel intérêt il peut y avoir à rééditer aujourd'hui un ouvrage qui est paru pour la première fois en 1925. Puis je me suis longtemps demandé ça, puis c'est entre autres pour ça que je l'avais jamais lu. Même si il y a un PDF là, de l'édition Maspero qui circule dans les milieux libertins par courriel depuis maintenant quelques années déjà. Il me semble qu'il y avait beaucoup d'eau qui devait avoir coulé sous les ponts depuis le début du siècle. Et puis, ben non, en fait, en le lisant, tu te rends compte que... premièrement, c'est une lecture passionnante. Il faut savoir que Victor Serge, c'est quelqu'un qui sait écrire. C'est un journaliste, mais aussi un romancier, un essayiste et tout. Puis c'est quelqu'un qui a pas juste eu du succès là, comme militant, comme journaliste militant là. Donc c'est très très bien écrit, c'est passionnant et c'est plein d'anecdotes, parce que bon, ça regorge d'anecdotes croustillantes, ces affaires là on se rend compte en fait que le schéma général de la répression politique reste le même. Ce qui a changé, bon, il y a quelques innovations technologiques, évidemment. On s'entend là que la mise sur écoute, les GPS, les mouchards et compagnie, c'était pas nécessairement très présent dans le temps de l'Okhrana. Il y a la technologie, mais il y a aussi, bon, quelques innovations théoriques qui viennent de l'oncle Sam, mais sinon, ça reste pas mal la même affaire. La répression, c'est moins meurtrier aujourd'hui, en tout cas en Occident, mais c'est essentiellement dû au fait que le courant révolutionnaire est également beaucoup moins menaçant que au début du siècle en Russie. Et donc, sinon, les bonnes vieilles méthodes de l'Okhrana demeurent d'actualité. Il s'agit d'abord de connaître intimement l'ennemi par un travail d'information, d'infiltration et d'analyse de données, de le perturber autant que possible avec un travail de sape et de manipulation, et de le provoquer pour pouvoir le réprimer. Et puis la postface de Francis Dupuy-Déry, avec qui on va jaser tout à l'heure, là, qui s'attarde à dresser le portrait de la répression aujourd'hui en Occident et ailleurs, est à cet égard-là très éclairant, et on est obligé de constater là que la répression est tout aussi systématique qu'au début du siècle, même au Québec. Je suis à penser au sommet des Amériques, aux grèves étudiantes et tout ça.
À tous ces policiers en civil pourris et facilement démasquables.
Oui, dans certains cas, ils sont pas si facilement démasquables que ça. Il y a rien qui a changé, en fait, sinon notre détermination collective à changer le monde, qui a tendance à s'émousser un peu. Donc la répression violente est un peu moins nécessaire. Une chance d'ailleurs pour nous, parce que sinon on ne ferait pas d'émission de radio. Hein.
Elle serait un peu arrêtée.
Ouais. Juste un mot sur l'auteur du bouquin, avant de passer en musique, d'appeler Francis et de le passer en entrevue. Donc Victor Serge, c'est un personnage qui est somme toute étrange. C'est un révolutionnaire et un homme d'action, mais comme je le disais, c'est aussi un journaliste qui est doublé d'un écrivain. Au début, c'est un anarchiste, individualiste même, qui était proche de la bande à Bonneau. Et en fait, il a fait de la prison avec la bande à Bonneau parce qu'il a refusé de dénoncer les survivants après coup. Lui, il était rédacteur du journal L'Anarchie en France, et qui est un journal illégaliste et individualiste et antisyndicaliste d'ailleurs, qui inspirait beaucoup la bande à Bonneau. Puis en fait, il vivait proche d'eux autres, il les connaissait finalement sans faire partie de la bande à Bonneau. Puis il a fait de la prison parce qu'il a refusé de les mettre de son bord. Mais il s'est rallié aux bolcheviques en prison. Et ensuite, toute sa vie, il va défendre publiquement le parti, tout en s'effrayant en privé de l'ampleur et de la férocité de la répression. Il a même aidé à faire libérer un certain nombre d'anarchistes. C'est entre autres grâce à son contact qu'Emma Goldman a pu faire sortir Voline de prison, notamment, parce que c'était comme un pont entre le comité central du Parti bolchevique puis les délégations anarchistes étrangères qui permettaient de libérer du monde. Il était fidèle au régime. Et dans la deuxième partie de son livre, ce qui a été bonifié en 1925, il défend la nécessité de la répression et dans une société révolutionnaire, et comme le travail de la Tchéka. C'est particulièrement troublant parce qu'au moment où il écrit ça, il est déjà dans l'opposition. Il est déjà dans l'opposition interne.
Il aime ça recevoir des coups de bâton.
Oui. Puis éventuellement, en fait, il va tomber dans les griffes de la GOPU, la police secrète stalinienne qui a succédé à la Tcheka. Il va être déporté en fait en Sibérie et finalement il va être expulsé du pays. Du RSS, va être déchu de sa citoyenneté. Alors ça, c'est très particulier parce que les parents de Victor Serge avaient été expulsés de la Russie tsariste parce que c'était des dissidents politiques et révolutionnaires. Et lui était retourné à la faveur de la révolution. Il est expulsé par la réaction thermidorienne, donc stalinienne. Finalement, il est expulsé du RSS, puis il va rester toute sa vie critique du totalitarisme, mais fidèle à la révolution. Et ça, c'était pas nécessairement expliqué dans le bouquin de Maspero, mais tout le contexte est très, très bien expliqué dans l'introduction de Eric Hazan et la postface de Richard Grieman. Oui, il y a deux postfaces. Il y a celle de Francis Dupuy-Dury, puis il y a celle de Richard Grieman. Des gens, entre autres, des archives Victor Serge à Moscou. Puis eux, ils disent que, dans le fond, là, il restait en or toute sa vie, mais que, bon, il était pragmatique, fait que... Il a compris que pour faire la révolution, fallait un parti, fallait le communisme et tout. Puis quand il s'est rendu compte que ça marchait plus, il est allé ailleurs. Beaucoup pensent que Victor Serge était trotskiste, mais bon, il était proche de Trotsky, mais il n'a jamais adhéré à la Quatrième Internationale parce qu'il trouvait qu'il reproduisait en fait ce qui avait été problématique en URSS. Donc, ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression par Victor Serge, c'est 228 pages chez Lux Éditeur que vous pouvez trouver dans votre librairie. On va s'en aller en musique, ce qui va nous donner l'occasion de prendre notre téléphone et d'utiliser la technologie pour parler à Francis Dupuy-Dury qui est à Montréal et qui va nous parler de la répression aujourd'hui.
Alors, ouais. Voilà. On va entendre chanter Tikenja Fakoly qui, lui, a vécu beaucoup, beaucoup de répression.
Je pense à toi, je t'écris des trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Javert. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles, un soleil au bout de ma fée. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris.
Alors, tel que promis, on a avec nous Francis Dupuy-Dury qui a écrit la postface, une des postfaces à ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression. T'es toujours là?
Oui.
Oui, hey, c'est super. Je me demandais, là je vois qu'il y a une édition qui est sortie à Montréal et une édition qui est sortie à Paris. Comment t'en es venu à travailler sur ce bouquin-là?
En fait, c'est la découverte à Paris qui a repris le livre. Dans une espèce de... C'est assez curieux, c'est une maison d'édition qui s'appelle Zone, mais en ce qui offre d'ailleurs les textes en accès libre sur leur site Internet, mais qui en fait une sorte de maison d'édition un front de la maison d'édition La Découverte.
OK.
Et c'est eux, en fait, qui avaient le fond Victor Serge. Lux voulait le reprendre aussi, donc il y a une collaboration entre Lux et La Découverte. Mais La Découverte m'a contacté pour faire la postface.
Et toi, tu es un petit peu notre spécialiste québécois de la répression politique. Je me demandais comment t'en es venu à t'intéresser à ça, la répression. C'est quand même un sujet d'étude curieux.
Oui, ben en fait, je me suis arrêté, donc ça m'a poussé à me poser des questions. Puis j'ai évidemment assisté beaucoup aussi à la répression, mais en fait, en termes de projet d'écriture, c'est plutôt en travaillant sur un premier projet de bouquin après le Sommet des Amériques qui portait sur les Black Blocs, où là, du coup, j'ai été évidemment confronté à la question là, et j'ai en fait réalisé l'intensité de la répression policière contre la frange, disons, la plus radicale du mouvement altermondialiste qui s'exprime partout en Occident quand le mouvement se réunit. Et donc, au fil de mes recherches sur le Black Bloc, du coup, j'ai accumulé aussi des informations sur la répression policière.
Souvent, quand on regarde ces questions-là, bon, on voit qu'il y a des arrestations quand il y a des actions ou quand il y a des choses qui se passent, mais pour le commun des mortels, il n'y a pas de répression à proprement parler. Comment est-ce qu'on définit ça, de la répression politique, puis est-ce qu'il y en a aujourd'hui de la répression politique?
Dans les sciences sociales, il y a peu de sociologues ou de politologues qui s'intéressent à la question, mais disons qu'il y a deux façons de le définir, puis je pense que les militants et les militantes seraient aussi d'accord. Il y a la façon, disons, une définition plus limitée qui est vraiment la police débarque et il agit à coups de bâton contre vous. Donc là, il y a peu de débat à savoir si c'est de la répression. Les gens vont dire oui, c'est une répression. Évidemment, on peut débattre à savoir si c'est politique ou si simplement ils répriment des gens qui transgressent une loi. Mais il y a une définition plus large que moi j'aime bien aussi, qui est en fait de dire c'est finalement tous les dispositifs ou les actions d'acteurs sociaux, mais ça peut être des policiers, ça peut être des journalistes, c'est pas nécessairement la police, mais qui travaillent pour miner, disons, les capacités de mobilisation des mouvements sociaux contestataires. Puis là, on a une définition, disons, beaucoup plus large de la répression. Ça peut même être évidemment des acteurs sociaux qu'on pense qui sont des alliés, par exemple, des fois des porte-paroles du mouvement syndical ou des organisations plus réformistes peuvent en fait appeler à la répression de leurs
turbulents alliés.
Aux alliés radicaux.
Et là, dans ta postface, tu fais le portrait de la répression. Bon, c'est assez large. Tu t'arrêtes pas seulement au Québec, ni même seulement à l'Occident. Mais si on se limite au Québec ou à l'Occident, est-ce qu'il y a des grandes lignes qui ressortent de ton étude, de ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des patterns?
Le premier pattern qui est vraiment, je pense, impressionnant, c'est de procéder à des arrestations de masse ou massives. L'arrestation de masse, c'est vraiment quand des groupes de manifestants ou des manifestations complètes sont encerclés. Ça, au Québec, par exemple, le service de police de la ville de Montréal est réputé pour procéder comme ça. Mais ça, c'est un pattern depuis, disons, on pourrait dire, la manifestation à Seattle en 1999. Il y a eu plusieurs cas avec des pics. À Copenhague, dernièrement, là, à l'automne, il y a eu 1200 arrestations. Convention d'investiture du Parti républicain à New York, il y avait eu 1800 arrestations. Donc, c'est vraiment des nombres d'arrestations faramineux dans ces cas-là.
Dans les cas d'arrestation de masse, la plupart du temps, la plupart des gens, finalement, après un processus relativement long, sont libérés sans accusation ou clairés des charges. Sauf des fois, bon, il y a des questions d'amende. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi la police fait ça? C'est quoi l'intérêt de l'État de faire des arrestations de masse comme ça si, au final, on libère tout le monde?
Ben, oui, en fait, c'est un peu le paradoxe. Il y a comme l'État est schizophrène. Disons que les juges ou le système judiciaire n'entérinent pas nécessairement ce que fait la police. Mais pour la police, moi, ça me semble assez clair. C'est une façon très facile, en fait, de s'assurer que la journée va être tranquille. En procédant à des arrestations de masse, vous les mettez en prison pendant 24 heures, 48 heures. Souvent, c'est illégal. C'est-à-dire que d'un point de vue purement libéral, là, même les ligues de défense de droits disent que c'est des détentions illégales, des arrestations illégales. Mais la police les fait. Et généralement, ils ont peu de réactions négatives de la part des médias, de la part des politiciens. Et puis, ils s'assurent d'avoir, en fait, d'avoir rempli leur mission, finalement, de s'être assuré que le grand sommet ou le grand spectacle organisé par l'élite se passe le mieux possible.
Donc, pour eux, c'est comme une façon de calmer le jeu dans les médias.
Moi, je pense qu'ils répondent, si c'est pas une commande directe des politiciens, c'est en tout cas une commande indirecte, c'est-à-dire qu'on fait, t'en es conscient, je pense, en vivant à Québec, là, quand il y a les grandes manifestations qui s'en viennent, qu'elles soient contre l'armée ou contre le sommet des Amériques, ont fait tellement peur des semaines ou des mois à l'avance à la population en disant que ça va être terrible, que en fait, au final, les gens sont contents que la police procède à des arrestations comme ça.
Effectivement. Donc, on parle des arrestations de masse. D'autres patterns, d'autres grandes lignes qui ressortent de ton étude de la répression?
Ben, ce qu'ils ont fait, la police en Europe et aux États-Unis, en fait, dans les années 90, à la fin des années 90, c'est qu'ils ont rabattu, finalement, contre le mouvement social transnational qu'on appelle, disons, le mouvement altermondialiste, des techniques qu'ils avaient développées en Europe pour contrôler les hooligans et aussi ce qu'on appelle les émeutes de banlieue. Mais les hooligans, en fait, avaient une structure un peu de fonctionnement, c'est paradoxal à dire, mais qui ressemble au mouvement altermondialiste, c'est-à-dire ils partaient de villes en autobus ou dans des ferries en Europe, ils traversaient des pays, ils se réunissaient dans des villes où il fallait la police essayer d'organiser des périmètres de sécurité, des zones interdites de manifestation, mais aussi des refoulements aux frontières, des contrôles, des déplacements, des arrestations préventives de leaders du mouvement. Et toutes ces techniques de répression, on les retrouve plaquées au mouvement altermondialiste, blocage aux frontières, arrestations avant que les gens partent ou suivis, disons, vraiment fin là, d'autobus ou de bateaux dans le cas de l'Europe. Et évidemment, le contrôle de zones là, interdites de manifestation avec des érections de clôtures. Ça, c'est des techniques qui sont rabattues des techniques développées pour le contrôle de foule des hooligans, par exemple.
Les hooligans, là, juste pour être sûr, là, tu parles des fans de sport un peu turbulents qui finissent par faire des émeutes, là?
Exactement. Exactement. Ça, c'est les techniques ont été... Parce que les policiers, c'est les mêmes. Hein, donc, les policiers, au final, que votre idéologie soit, disons, de vaincre le capitalisme et le racisme, ou que c'est que l'équipe de Liverpool gagne, pour eux, leur problème, finalement, c'est un problème de contrôle de foule, au final, là, dans la journée même.
OK. Donc, il y a des patterns sur les événements en tant que tels, lors de contrôle de manifestation, contrôle de foule. Est-ce qu'une répression qui se vit en amont ou en aval, d'autres choses qu'on peut évaluer, d'autres trucs qui reviennent des grandes lignes?
Ben, ce qui est clair, c'est qu'ils ont identifié pour parler de façon, disons, plus politique, ils ont identifié des groupes. Des fois, ils ont une définition très large du danger. On sait, par exemple, qu'au sommet de la PEC, en 97, ils avaient espionné le collectif Les Grands-Mères en colère, qui est une chorale, en fait, militante qui chante pendant les manifestations. Mais c'est sûr qu'ils identifient ceux qu'ils appellent, ou qu'ils identifient, ou qui s'appellent comme anarchistes, ou les écologistes radicaux. Ça, disons, c'est les deux tendances militantes qui sont les plus directement ciblées. Et selon les pays, là, il peut avoir des campagnes vraiment de persécution, comme en Italie, il y a quelques années. C'est des descentes dans des résidences privées ou dans des locaux de collectifs. Les gens sont arrêtés, ils sont accusés de complot et de participer à des organisations criminelles.
OK. Quand on regarde le bouquin en tant que tel, le texte de Victor Serge, que tout révolutionnaire doit savoir de la répression, c'est à partir d'une étude faite en 1919 des archives de l'Okrana. Ça a été sorti en 1925. On peut avoir l'impression que c'est un peu daté. Bon, toi, j'imagine que tu as dû relire ça pour écrire ta post-faste. Est-ce que c'est daté?
Oui, il y a un côté daté. J'aurais même tendance à dire, mais bon, moi, je suis un peu un nerd, donc j'aime bien les vieux bouquins poussiéreux. Mais je trouve qu'il y a un côté, ça fait d'une certaine manière son charme, parce qu'il raconte un peu, bon, des anecdotes au niveau du comité à Saint-Pétersbourg qui sont fait infiltrer. Et puis, en même temps, il y a des choses qui sont pas si datées que ça, c'est-à-dire l'infiltration, la provocation, le chantage, la filature, les arrestations arbitraires, tout ça, c'est des choses qui existent évidemment encore. Après ça, il y a la deuxième partie du bouquin de Serge qui est plus sur la violence, la répression révolutionnaire des bolcheviks. Évidemment, c'est complètement un autre enjeu, là.
Donc, ça se pose pas en ce moment, en tout cas.
Non, effectivement. C'est pas en ce moment, tu veux dire?
Je veux dire, la question de la répression révolutionnaire se pose pas en ce moment.
Non, je pense pas, non. Peut-être encore...
Pas dans un avenir rapproché non plus.
Donc oui, moi je pense que ce qu'on lit de Serge, ça peut être encore instructif pour aujourd'hui. Évidemment, c'est pas le type de mouvement contestataire n'est pas du tout le même dont Serge parle. C'était vraiment des organisations clandestines armées qui visaient à renverser l'État, mais avec des moyens militaires. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui reste valable dans tout ça, d'après toi, si on peut en tirer quelque chose, qu'est-ce qui resterait valable dans ce document-là, hein, outre son aspect historique intéressant de voir des anecdotes des milieux révolutionnaires russes du siècle, en fait, il y a deux siècles maintenant même?
Au-delà des conseils pratiques, parce qu'il y a des conseils pratiques qui sont valables, même si les moyens, techniques de filature ont changé, il y a des choses tout à fait concrètes qui donne comme conseils qui sont pratiques, mais il y a aussi la leçon politique que j'en tire, notamment dans le cas de la Russie en particulier, c'est qu'il dit malgré la violence et l'étendue du système répressif des tsars, il donne de multiples exemples, il parle de milliers d'agents infiltrateurs et d'informateurs et de provocateurs, c'est qu'en fait ils ont gagné, ils ont réussi à faire tomber le système. Et moi je pense que ça, c'est une belle leçon, c'est que malgré la répression, par exemple depuis 10 ans du mouvement altermondialiste, dont sa frange la plus radicale, d'année en année, les grands de ce monde organisent des sommets, puis à chaque fois il y a des milliers de personnes qui se mobilisent avec des moyens vraiment des moyens de fortune, et malgré la répression.
Donc ça, ce serait la leçon que tu tirerais de tout ça?
Oui, c'est une leçon un peu paradoxale, parce qu'évidemment, il y a quand même la répression, et on a des amis qui sont criminalisés, qui en subissent les conséquences, mais ce qu'on voit aussi, c'est que ça ne semble pas démobiliser outre mesure les forces contestataires.
Donc, c'est toujours possible de gagner. J'aurais une dernière question quiz, libre à toi d'y répondre ou pas, mais je pense que c'est important d'étudier la répression puis de regarder tout ça. En même temps, des fois, il arrive que ça ait un effet démobilisateur, et c'est entre autres, comme tu le disais, quand il y a des campagnes de peur autour de l'organisation de manifestations, c'est un des effets recherchés de la répression, que ça fasse peur aux gens et que ça n'en empêche de militer. D'après toi, est-ce que c'est dangereux de militer aujourd'hui? Puis est-ce que pas le rapport qualité-prix, mais dans la balance entre la répression et ce qu'on va chercher, est-ce que ça vaut la peine d'affronter tout ça?
En fait, je vais répondre à ton quiz en deux temps. Des fois, je me dis qu'on m'invite pour faire des conférences, par exemple, sur la répression policière. Je me demande tout le temps si finalement je suis pas le porte-voix de la répression en disant vous allez être réprimé. Puis du coup, j'ai l'impression que je suis celui qui apporte la mauvaise nouvelle et qui participe à la démobilisation. Donc ça me déprime. Mais en même temps, je me dis, sans vouloir minimiser ce que les gens vivent, que justement, si on relit Victor Serge, la répression qu'on vit aujourd'hui, au final, en termes, disons, on relativise, elle est quand même moins pire, et à la limite, des fois, on y repense le lendemain après avoir été arrêté, on se dit, bon, on est en colère parce qu'on a été privé de droits, on a été humilié, mais on était ensemble, entre camarades, et puis finalement, c'est pas si pire que ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que ma postface, elle se termine, en fait, sur des cas à l'extérieur de l'Occident, où je dis à l'extérieur de l'Occident, ça serait vraiment parfois à coup de mitraillette, où les gens disparaissent, les gens meurent, et on n'est pas évidemment à ce niveau de répression ici en Occident, à part dans un ou deux cas dramatiques comme à Gênes en 2001, par exemple.
Mais Francis, merci beaucoup d'avoir participé. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on passe en musique pour la fin de notre émission.
Je sais que c'est très montréalo-centriste, mais bon, le 15 mars, lundi, à Montréal, comme tous les ans, il y a une manifestation contre la brutalité policière, donc voilà.
Ben, merci beaucoup. Donc, Francis Dupuy-Déry, l'auteur d'une postface à Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression par Victor Serge, qui vient de sortir chez Lux Éditeur, 228 pages, intéressante et fort utile à lire, que vous pouvez trouver chez votre libraire indépendant préféré.
Et où c'est la page noire?
Ben, c'est ça, c'est notre libraire indépendant préféré, la page noire.
Ouais. C'est pas un et aussi.
est-ce qu'on part en musique?
Ben, on peut dire salut.
Oui, passez une agréable semaine sur les ondes de Sequoia. Et merci à Francis d'avoir participé. C'était Nicolas.
Jeannie.
Et Farruko, qui finissait avec Soul Invaders, une vieille pièce ska qui nous chante Muhammad Ali.